Merci pour l'invitation. Donc la proposition, c'est je parle 45 minutes et ensuite on échange. Je vous propose d'aborder trois points. Le premier, c'est un diagnostic personnel sur la situation financière et écologique. Donc ça va être les mauvaises nouvelles de la soirée. Le deuxième, c'est une proposition d'analyse anthropologique du sujet, puisque c'est un peu votre domaine. Et troisième partie, si j'ai le temps, quelques propositions, non pas de solutions, mais des pistes pour traverser ce déni d'humanité qui me semble commun à ce qui se passe du côté de la finance et du côté de l'écologie. Ça vous va, pour les trois parties? Comme dans toute bonne dissertation. Donc, première partie, le diagnostic. Du côté de la finance, ça fait un moment qu'on n'entend plus tellement parler de la possibilité d'une crise financière, comme si elle avait disparu. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Mon point de vue, c'est qu'on peut avoir une crise, un nouveau krach financier d'amplitude analogue à celle de 2008 dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. C'est un peu comme le dicton latin, vous savez ça, « mors certa, ora incerta ». Donc la mort est certaine, mais l'heure est incertaine. On ne sait pas. Nous savons tous que nous sommes mortels, mais personne ne sait quand. Donc la prochaine crise financière, c'est la même chose. Et c'est absolument... Enfin, c'est très, très vraisemblable qu'on en aura une, mais personne ne sait quand et comment. Pourquoi est-ce qu'il est très vraisemblable qu'on en ait une? Pour les raisons suivantes, qui sont que les grands fondamentaux qui pilotent la possibilité d'une crise financière sont là. Ces grands fondamentaux sont l'accumulation de dettes privées, pas du tout de dettes publiques, et le découplage massif entre le niveau des actifs, du prix de valorisation des actifs financiers et le niveau de la croissance de l'économie réelle. Alors, ce que je devrais ajouter, c'est qu'avant de devenir jésuite, j'ai été ce qu'on appelle quant, c'est-à-dire ingénieur quantitatif, conseiller scientifique, si vous voulez, pour les banques d'affaires. Donc j'ai travaillé sur les marchés, j'ai fait des maths pour les traders, mais je n'ai jamais été trader moi-même. J'ai refusé de prendre ce genre de poste. Alors, l'accumulation des dettes privées, donc on en parle très très peu, alors qu'il y a beaucoup plus de dettes privées dans le monde que de dettes publiques. En zone euro, la moyenne de la dette privée, c'est 130% du PIB. La moyenne de la dette publique, c'est 100%. Donc il y a beaucoup plus de dettes privées que de dettes publiques. Et dans la dette privée, nous ne comptons jamais, parce que c'est un problème méthodologique majeur, la dette privée des banques. Donc c'est toujours la dette privée du secteur privé non financier et des ménages. Mais je parlerai des banques dans un instant. En tout cas, voilà, il y a beaucoup plus de dettes privées que de dettes publiques. Or, quel est le lien entre l'accumulation des dettes privées et le découplage entre la valorisation de marché des actifs financiers et l'économie réelle? Il est le suivant, c'est un phénomène qui est relativement bien compris, qui a été déjà analysé en fait dans les années 30 par un grand économiste américain qui s'appelle Irving Fisher, et puis réanalysé par Hyman Minsky, un autre économiste américain, dans les années 70. Donc le phénomène est le suivant. Vous avez les actifs financiers, quels qu'ils soient, ça n'a aucune importance, qui sont valorisés à un certain prix, et pour X raisons, vous êtes convaincu que ce prix va augmenter. Et vous voulez bénéficier de la différence, c'est-à-dire acheter aujourd'hui et revendre demain, ce qui est l'activité spéculative de base. Donc qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous n'allez pas simplement réunir vos petites économies, parce que ça ne suffit pas pour faire une belle opération. Vous allez emprunter, donc vous allez vous endetter. Et de fait, historiquement, on voit qu'à partir du moment où il y a une libéralisation des marchés financiers, en Europe et aux États-Unis, dans les années 80, la dette privée se met à augmenter beaucoup plus rapidement que le PIB. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert plus simplement à financer des investissements dans l'économie réelle qui font augmenter le PIB. Elle sert à financer des opérations spéculatives sur les marchés financiers qui ne font pas augmenter le PIB. Donc vous avez le ratio dette privée sur PIB, regardez dans tous les pays européens et Amérique, et aux États-Unis et au Japon, qui explose à partir des années 80. Donc vous êtes un investisseur, vous êtes beaucoup endetté, vous avez acheté des actifs financiers et vous attendez que ça pousse, comme un bon agriculteur. Mais la différence avec l'agriculteur, mais quelquefois c'est la même chose pour l'agriculteur, l'agriculteur aussi est très endetté, il faut que vous commenciez à rembourser votre emprunt auprès de la banque. Alors de deux options, l'une, ou bien vous avez des revenus qui viennent de l'économie réelle, qui vous permettent de commencer à rembourser votre emprunt auprès de la banque, ou bien vous n'en avez pas, ou pas assez. Si vous n'en avez pas assez, vous êtes obligé tôt ou tard de commencer à vendre vos actifs financiers pour récupérer du cash pour rembourser la banque. Au niveau agrégé, ça veut dire que pour que la bulle financière puisse continuer de croître, puisque c'est une augmentation en fait de la valorisation des actifs qui n'est pas directement liée à l'économie réelle, qui est liée au fait que les investisseurs se sont endettés pour acheter des actifs, ça fait monter le prix des actifs mécaniquement, Donc c'est autoréalisateur comme anticipation. Pour que ça tienne dans la durée, il faut que les investisseurs aient un accès à des revenus de l'économie réelle, indépendant de la sphère financière, pour qu'ils puissent rembourser. Et ça vient du PIB. Alors, une manière simple de le calculer, c'est le PIB. C'est pas un bon indicateur, mais je rentre pas dans ce débat maintenant, sinon on en a pour toute la soirée, juste là-dessus. Donc si le PIB croît moins vite que le montant des actifs financiers, que la valeur des actifs financiers, bien, tôt ou tard, il y a des investisseurs qui n'auront plus assez de revenus de l'économie réelle pour rembourser la dette qui leur a permis de faire croître le prix des actifs financiers. Ces investisseurs, tôt ou tard, vont devoir vendre leurs actifs. Alors, de qui s'agit-il ? Personne ne le sait à l'avance. À part Dieu le Père, personne n'a la connaissance micro de la totalité des prises de position sur les marchés de tous les investisseurs du monde. Rappelez-vous, en 2012, on ne savait même pas qui était détenteur des titres de dette publique grecque. C'est la raison pour laquelle on a mis 2 ans avant de faire un haircut sur la dette grecque. Hein. C'est que la BCE ne savait pas qui détenait les titres de dette publique grecque. Donc vous imaginez bien que savoir qui aujourd'hui est plus exposé sur les marchés financiers, personne ne le sait, à part les intéressés eux-mêmes, qui n'ont aucun intérêt à le révéler, évidemment. Et donc arrive forcément un moment où ces investisseurs-là vont devoir vendre leurs actifs pour commencer à récupérer du cash et rembourser auprès de la banque. Si cette masse d'investisseurs surendettés qui est obligé de vendre, devient suffisamment critique, vous avez une force de gens qui deviennent vendeurs sur les marchés. Si ces gens deviennent vendeurs sur les marchés, ça fait au moins stopper la montée des prix des actifs. Parce que les gens vendent des actifs au lieu de les acheter. Et peut-être, ça peut même commencer déjà à faire baisser le prix des actifs. Si les actifs cessent d'augmenter, en tout cas, il y a d'autres investisseurs qui n'étaient pas en difficulté, qui, eux, ont des revenus de l'économie réelle, mais qui, eux, en fait, ont joué uniquement à la hausse, qui voient que les actifs n'augmentent plus et qui se disent « Bon, ben, dans ce cas-là, il faut que je vende, parce que ça ne me rapportera plus. Ça risque même de baisser. » Donc c'est le moment de vendre. Donc ceux-là vont vendre aussi. Et du coup, vous allez avoir une majorité d'investisseurs qui vont être vendeurs. Et ça va faire baisser les actifs. Et à partir du moment où les actifs baissent, alors tout le monde se met à vendre pour éviter de perdre, pour perdre le moins possible. Et ça provoque le krach financier. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin, c'est pas de la psychologie de très haut vol, c'est de la rationalité très élémentaire. Toute bulle financière, si elle n'est pas alimentée par des revenus de l'économie réelle substantiels qui suivent le niveau de montée des actifs financiers, finit par éclater tout ou tard. Sauf à ce que les banques, tout d'un coup, deviennent philanthropes et disent « on ne vous demande plus de rembourser vos prêts, ce qui n'arrive jamais ». Aujourd'hui, on est dans une phase où les actifs financiers ont cru de manière très rapide. L'économie réelle, vous savez bien, chez nous, croît de manière très lente. On a très peu de croissance. Bon. Donc on n'a pas du tout de revenus d'économie réelle suffisants pour alimenter la bulle. Qui plus est, il y a un deuxième facteur qui est propre à cette crise-là, qui est que jusqu'en 2008, la grande crise des subprimes, on avait, d'une certaine manière, le monde s'était organisé de telle sorte que, je caricature, mais ça aide à comprendre, la Chine était la grande usine du monde, produisait les produits manufacturés pour nous, pour les Occidentaux, récupérait évidemment des excédents commerciaux colossaux, c'est notre argent. Par exemple, l'excédent commercial de la Chine vis-à-vis de l'Occident en 2008-2009, c'est 3 000 milliards de dollars. Donc c'est une fois et demie le PIB français de l'époque. C'est colossal. Mais la Chine réinvestissait cet argent dans la sphère financière occidentale, à Londres et à New York, notamment par l'achat de dettes publiques américaines. Donc nous dépensons, nous achetions nos gadgets qui sont là pour pas cher, qui étaient faits par des Chinois, et on récupérait une partie d'entre nous, en tout cas récupérait cet argent sous forme d'investissement dans la sphère financière. Raison pour laquelle une partie des Occidentaux s'est enrichie considérablement dans les 40 dernières années. L'une des explications majeures de l'augmentation des inégalités, c'est celle-là. C'est que certains d'entre nous ont gagné 2 fois. Ils ont pu s'acheter ça pas cher. Ils ont récupéré leur propre argent dans les actifs financiers dont ils étaient propriétaires. Du coup, vous voyez que ça faisait une rentrée d'argent venue de l'économie réelle qui venait de la Chine, dans la sphère financière occidentale. Depuis 2009, très très échaudée par la crise des subprimes, la Chine a décidé de changer complètement de stratégie. Elle ne réinvestit plus ses excédents commerciaux en Occident. Donc en 2009, Pékin a déclaré qu'ils n'achèteraient plus de dette publique américaine, donc ils allaient diminuer puis supprimer complètement leur politique de rachat de dette publique américaine. Et par ailleurs, la Chine s'est mise à produire pour son marché domestique, Et aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. Donc la Chine importe autant qu'elle exporte auprès de l'Occident. Donc il n'y a plus d'excédent commercial chinois venant de l'économie réelle mondiale pour alimenter la bulle financière occidentale. Ce qui permet à la bulle aujourd'hui de ne pas exploser tout de suite, demain matin, c'est uniquement les politiques monétaires non conventionnelles des grandes banques centrales. Vous savez que la BCE continue sa politique de quantitative easing, donc d'assouplissement monétaire quantitatif, pour parler français. Vous savez que la Fed essaye d'y mettre fin, plus ou moins, avec Trump qui s'y oppose. Bon, il y a un débat, vous savez, entre la Fed et la Maison-Blanche là-dessus. Mais si demain matin, toutes les banques centrales devaient mettre fin à leur politique monétaire non conventionnelle, qui consiste à abonder les banques, le marché interbancaire, de milliers de milliards qui leur fait une rentrée d'argent qui permet à la sphère financière de ne pas exploser, je pense qu'on a un crack très très vite. Ça, les banquiers centraux le savent très bien. Draghi, au premier lieu, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas mettre fin à leur politique. Donc vous voyez, ça, c'est pour la sphère financière. Donc la crise financière, à mon avis, va arriver un jour ou l'autre. Quels sont les foyers possibles? Il y en a plein. Vous avez un certain nombre de banques européennes qui ont beaucoup trop de ce qu'on appelle les NPL, les Non-Performing Loans, donc ce qui est un euphémisme pour parler d'actifs pourris, dont elles ne se sont pas débarrassées depuis 2008. Donc même le FMI, qui est plutôt extrêmement bonne fille sur ces sujets-là, a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme en disant il y a beaucoup trop de NPL dans les banques européennes. Tout ça est très grave, très dangereux. Donc le FMI a son propre chiffrage, 300 milliards. Bon, c'est un chiffre parmi d'autres. Mais peut-être vous vous souvenez qu'à la Noël 2016, Monte dei Paschi di Siena a fait faillite. Ou peut-être ça vous a complètement échappé. Et Monte dei Paschi di Siena, c'était la plus ancienne banque du monde, qui avait été créée au XIVe siècle, troisième banque d'Italie. Et c'est rien passé à la Noël 2016. Simplement, Monte dei Paschi agonisait depuis 2008, était tenu avec assistance respiratoire et machine par la BCE à bout de bras. Et 2016, Draghi a lâché parce qu'il n'en pouvait plus. Et donc, Monte dei Paschi a fait faillite. Monte dei Paschi n'est pas du tout la seule à être dans des situations proches de la catastrophe. Il y a pas mal de cajas en Espagne qui vont très très mal, qui sont tenus à bout de bras par le gouvernement espagnol. Ce qui vous explique la croissance de la dette publique espagnole. C'est pas du tout que l'Espagne jetterait de l'argent par la fenêtre ou embaucherait des fonctionnaires espagnols par millions. C'est juste que chaque mois, il faut réabonder les cajas espagnoles qui sont toutes, ou une bonne partie d'entre elles, pas très très loin de la faillite. Oui. C'est pas impossible du tout qu'une partie des Landesbanken allemandes soit dans des situations assez critiques, raison pour laquelle l'Allemagne, qui a un rôle très très spécial dans la gouvernance de la BCE, a obtenu que la BCE n'ait pas le droit d'aller regarder ce qui se passe dans les Landesbanken allemandes, alors qu'elle a un droit de supervision sur toutes les autres banques de la zone euro. Voilà. Donc on peut avoir une faillite bancaire d'un grand groupe demain matin, c'est possible. Et dans le contexte actuel, ce serait grave pour deux raisons. La première, c'est que nous ne sommes pas protégés en Europe. Donc l'Union bancaire européenne, qui est supposée, dont le processus de mise en place a commencé en 2009, est supposée protéger le citoyen européen contre une prochaine crise financière, une prochaine crise bancaire, avec le slogan « Plus jamais le contribuable européen ne paiera pour sauver une banque », l'Union bancaire européenne ne nous protège pas. Donc j'ai fait un rapport pour le Parlement européen en 2015, que j'ai rendu à Klaus Welle, au Parlement, qui montre que si on a une nouvelle crise de même ampleur que celle de 2008, une majorité des grands groupes bancaires européens fait faillite. Et l'Union bancaire est incapable de sauver ces groupes-là. Et d'ailleurs, pour Monte dei Paschi, une banque, toute seule, à Noël 2016, l'Union bancaire européenne n'a pas dépensé un centime d'euro pour la sauver. Donc elle n'est pas capable de venir au secours de Monte dei Paschi, ce qui veut dire que c'est l'État italien qui a repris à sa charge toute la dette privée de Monte dei Paschi, ce qui veut dire que c'est le contribuable italien qui paiera la totalité de la dette de Monte dei Paschi. Et donc si pour Monte dei Paschi, l'Union bancaire européenne ne fonctionne pas, si un groupe comme BNP demain matin devait faire faillite, BNP c'est quasiment la taille du PIB français en taille de bilan, l'Union bancaire ne fera rien. L'Union bancaire, en fait, se réduit à la construction d'un fonds qu'on appelle un fonds de résolution, qui est en fait un fonds de secours des banques en détresse, qui est abondé par les banques elles-mêmes et qui atteindra la taille héroïque de 55 milliards en 2023. Donc d'abord, c'est 2023, alors qu'on peut avoir une crise demain matin, et 55 milliards alors que Le bilan de BNP, c'est 1900 milliards. Pas loin de 2000 milliards. Donc avec 55, c'est un gobelet d'eau tiède pour éteindre les cendres de l'incendie. Pas plus. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est grave si on a une grande banque qui fait faillite aujourd'hui, c'est que la Commission européenne a eu la très très mauvaise idée il y a quelques années de voter la directive EMIR, qui est une directive qui met en concurrence ce qu'on appelle les chambres de compensation, dans le monde, enfin en tout cas dans le monde connecté à l'Europe. Les chambres de compensation, peut-être vous ne voyez pas ce que c'est, mais c'est des organismes très discrets qui centralisent les transactions financières internationales. Donc admettons que, pour quelque raison que ce soit, vous ayez une transaction à faire avec les États-Unis, votre banque va entrer en contact avec la banque récipiendaire aux États-Unis de votre transaction. Et en fait, elles ne vont pas communiquer directement entre elles, sauf si vous faites ce qu'on appelle du gré à gré, mais vous et moi, nous ne sommes pas en position pour faire du gré à gré. Donc elle va passer par une chambre de compensation, qu'on appelle une clearinghouse en anglais, qui va centraliser l'information et garantir que la transaction se passera correctement. Si l'une des deux institutions est un voyou, l'autre institution sera en difficulté. Donc les chambres de compensation sont destinées à vérifier que tout se passe bien, que chacune des deux institutions a pignon sur rue et que la transaction a lieu dans les conditions qui étaient prévues par le contrat. Si jamais la transaction n'avait pas lieu normalement, la chambre de compensation se porte en partie garante de la transaction auprès de la victime. Donc si, en fait, l'une des deux parties est un voyou et disparaît avant la fin du contrat, la chambre de compensation doit compenser, c'est son nom, l'autre partie. Ça va ? Pour réussir à faire ça, la chambre de compensation prélève sur toutes les transactions un pouillème du volume de la transaction, qui ne fait de mal à personne. Pouillème qui aurait pu être une taxe Tobin, mais c'est les chambres de compensation qui le prélèvent. Et avec ce pouillème, fois les milliards qu'il y a de transactions chaque jour, elle constitue un coussin de sécurité, dans lequel elles vont puiser le jour où il y a un sinistre. Donc en fait, c'est une activité d'assurance. Vous voyez ? C'est comme une compagnie d'assurance. Or, la directive EMIR a dit, comme l'alpha et l'oméga des relations humaines, c'est la concurrence, la lutte de tous contre tous et la survie des plus forts, dans la sélection darwinienne, on va mettre en concurrence les chambres de compensation les unes avec les autres. Et donc, chaque banque va pouvoir choisir la chambre de compensation avec laquelle elle fait sa transaction. La conséquence de cette heureuse idée, c'est que les chambres de compensation ont toutes réduit le pouillème qu'elles prélevaient sur les transactions pour pouvoir dire à leurs clients, regardez, moi je suis moins cher. Mais du coup, elles ne constituent plus leur coussin de sécurité. Du coup, elles sont incapables de se porter garante, en vérité, d'un choc au cas où il y aurait des banques qui feraient faillite. Ce qui veut dire aujourd'hui que si on a une grosse banque qui fait faillite, on peut avoir des chambres de compensation elles-mêmes qui font faillite. Et si une chambre de compensation fait faillite, c'est toutes les transactions dont elle est responsable qui s'effondrent. Et donc, les chambres de compensation fragilisées aujourd'hui, c'est une manière de transformer une petite bombinette en bombe H très vite. C'est-à-dire vous démultipliez l'effet de la réaction nucléaire. Oui. Donc ça rend la chose beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Donc évidemment, entre-temps, quand même, heureusement, la Commission européenne s'en est rendue compte. Mais, comme toujours, la réponse, c'est on va créer le comité Théodule, qui va réfléchir à la meilleure manière de résoudre le problème sans remettre en cause le principe de base qui est la concurrence absolue de tous contre tous. Et donc vous avez des boîtes de conseil qui se font payer des ponts d'or pour imaginer des trucs très très sophistiqués pour que malgré tout les chambres de compensation puissent réussir à survivre et pas trop faire peur. Mais ça ne change pas la nature du problème. Ça va pour la crise financière ? Alors il y a d'autres foyers possibles, on pourra en discuter si vous voulez. Vous avez la dette des étudiants américains, qui ne pourront pas forcément la rembourser. Alors là, pour l'instant, les nouvelles macro des États-Unis sont bonnes, donc ça va. Mais le jour où les États-Unis commencent à tousser, vous avez plein d'étudiants ou de jeunes professionnels surendettés qui commencent à ne plus pouvoir rembourser leur dette. Bon. La dette des étudiants américains, aujourd'hui, c'est 1500 milliards quand même. Ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Vous avez l'opacité des grandes banques d'État chinoises, dont personne ne connaît vraiment les bilans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quand même une bulle immobilière énorme sur la côte est chinoise autour de Shanghai, que donc beaucoup des grandes banques chinoises ont elles aussi beaucoup de NPL, donc d'actifs pourris. Simplement, elles sont encore moins transparentes que les nôtres, et donc on ne sait pas très bien leur état de santé réel. Voilà. Voilà pour la finance. Pour la crise écologique, je vais aller un tout petit peu plus vite, c'est apparemment mieux connu, mais en fait, c'est encore beaucoup plus grave. Donc vous savez qu'il est trop tard pour réussir à tenir l'accord de Paris. Nous n'arriverons pas à rester en dessous des 2 degrés à la fin du siècle. Nous allons atteindre les 2 degrés quelque part dans la deuxième moitié de ce siècle, à peu près quoi qu'il arrive, malheureusement. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est tout faire pour rester le moins loin possible du plafond des 2 degrés. Pourquoi 2 degrés ? Parce que les climatologues ont une vision assez claire de ce qui se passe jusqu'à plus de 2 degrés. Mais après, le phénomène est tellement non linéaire, il y a tellement d'effets d'emballement possibles, qu'en réalité, on n'a pas tellement de vision claire de ce qui peut se passer au-dessus de 2 degrés. Donc il va falloir entrer dans cette terra incognita dans les décennies qui viennent et nous adapter à ça. Bon, les impacts directs, vous les connaissez, montée du niveau de la mer. Le scénario médian aujourd'hui, c'est plus 2 mètres à la fin du siècle. Plus 2 mètres, hein. C'est pas plus 1 mètre, c'est plus 2 mètres. Donc évidemment, Venise est sous l'eau, mais New York est sous l'eau également. Donc ça va obliger nos amis américains à faire des digues gigantesques. Et entre-temps, la quasi-totalité du Bangladesh a disparu de la carte. Le delta du Mékong est sous l'eau. Le delta du Mékong, c'est la totalité du grenier à riz du Vietnam. Donc le gouvernement vietnamien, aujourd'hui, est en mode panique sur la question comment assurer la sécurité alimentaire du Vietnam dans les décennies qui viennent. Et nous demande à nous, à l'AFD, de les aider à résoudre ce problème. Le Bangladesh, c'est même pas la sécurité alimentaire, c'est où va-t-on mettre les habitants du Bangladesh ? Et vous savez que Modi construit un mur en ce moment sur la frontière indo-bangladeshi pour empêcher les réfugiés du Bangladesh d'arriver en Inde, le jour où ils auront les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est la montée du niveau de la mer. Le deuxième grand sujet, vous le savez sûrement, c'est la fonte des glaciers. Donc c'est pas juste un problème pour la nostalgie des alpinistes suisses. C'est que les glaciers, c'est de l'eau potable. C'est des grands réfrigérateurs gratuits, en fait, qui se régénèrent chaque année sans qu'on fasse rien, qui alimentent les rivières et les fleuves. Donc si vous n'avez plus de glaciers, ça veut dire que cette source d'eau-là disparaît, qui est de l'eau potable. Le grand sujet, c'est en Himalaya et dans les Andes. Donc en Himalaya, les glaciers fondent très vite et alimentent des toutes petites rivières qui s'appellent le Yangtze-Kiang, le Gange, l'Indus, etc. Donc au début, en fait, ça va augmenter le débit de ces fleuves, parce que comme en Europe en ce moment, hein. Vous avez remarqué peut-être, hein, le débit de certains fleuves augmente en ce moment grâce à la fonte des glaciers. Parce que les glaciers fondent beaucoup, beaucoup plus que les années précédentes. Mais il y a un moment où le glacier ne se reconstituera plus, ou en tout cas plus du tout autant qu'avant, et puis après il n'y aura plus de glaciers du tout. Donc ce jour-là, il n'y aura plus de fleuves. S'il n'y a plus de fleuves, il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'agriculture possible le long des rives de ce fleuve. Et au moins les 3 fleuves que j'ai nommés en Asie, en Inde et en Chine, font vivre des centaines de millions de personnes. Qui vont évidemment devoir migrer. Donc ça, c'est en Asie. Et vous avez le même sujet dans les Andes, avec là aussi des glaciers qui disparaissent à vue d'œil. Vous savez que La Paz, en Bolivie, c'est la capitale du pays, hein, 4000 mètres d'altitude. Donc les Boliviens ne sont pas fous. Ils ont construit La Paz à une époque où La Paz était dans une forêt luxuriante, alimentée par l'eau des glaciers. Aujourd'hui, La Paz est dans un désert. Parce que les glaciers ont tous fondu, la forêt a disparu. Et en 2016, La Paz a connu pour la première fois ce qu'on appelle le Day Zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Jour que Cape Town attend en Afrique du Sud avec angoisse maintenant chaque année. Donc la Bolivie l'a déjà traversé. Ça. Et vous savez qu'on peut vivre sans électricité. On ne fera plus cette conférence, mais on pourra quand même encore vivre. En revanche, vivre sans eau, ça, personne. Et on ne dure pas longtemps. Donc ça, c'est la fonte des glaciers. Le troisième grand sujet, c'est l'érosion des sols, qui est liée très fortement, évidemment, à l'érosion de la biodiversité. Donc là, c'est une chute probable des rendements agricoles d'un certain nombre de terres, de sols. Donc les agronomes ne sont pas complètement d'accord entre eux. Il y a énormément de débats dans tout ce que je vous dis. Hein. Évidemment, j'avance à la tronçonneuse. Hein. Mais en gros, à +3, +3,5 degrés, il y a quand même un consensus pour dire que les rendements agricoles des sols s'effondrent. Donc l'agriculture à la fin de ce siècle, si entre-temps on n'a pas appris à faire une agriculture résiliente au réchauffement, ça va être très très compliqué. La biodiversité, vous connaissez un peu le sujet. Vous avez une migration du vivant de l'équateur vers les pôles à cause du réchauffement et à cause de la destruction des écosystèmes que nous pratiquons. Cette migration, elle se déplace à la vitesse, en gros, en moyenne de 6 km par an. Donc c'est-à-dire que tous les ans, le vivant a bougé de 6 km vers les pôles, donc pour nous, dans l'hémisphère nord, vers le pôle nord. Donc la première fois que vous entendez ça, vous dites 6 km, la belle affaire, moi je fais ça en une heure, donc c'est pas une difficulté. Mais si vous y réfléchissez, en fait, 6 km pour un arbre, c'est beaucoup. En revanche, pour un parasite, pour une bactérie, pour un virus, c'est facile. Donc les maladies tropicales sont en train de remonter. La malaria s'est réinstallée en Italie l'an dernier. Donc il y a 3 femmes italiennes qui sont mortes de crise de palu, parce que le brave médecin italien n'a pas identifié la crise de palu. Et la Banque mondiale chiffre à 5,2 milliards le nombre d'humains qui devraient avoir la malaria en 2050. Donc vous et moi, une bonne partie d'entre nous sont encore vivants. Moi, je serais âgé, mais... moi, j'ai attrapé la malaria au Tchad. Je peux vous dire que c'est pas drôle, la malaria. Alors, tant que vous avez des médicaments pour survivre, ça va, mais une crise de palu, ça vous tue, hein, si vous n'avez pas les médicaments. Voilà. À ceci, il faut ajouter dans la série des horreurs la fonte du permafrost, hein, du pergélisol, du côté de la Sibérie. Vous savez que c'est du sol qui est gelé toute l'année, qui est en train de fondre et qui, à un moment ou à un autre, ne sera plus gelé toute l'année. Dans ce pergélisol sibérien, il y a des tas de maladies qu'on pensait définitivement évacuées qui sont là, parce que les virus et les bactéries ne sont pas morts. Donc l'anthrax est ressorti. Donc il y a un enfant russe qui est mort d'anthrax l'an dernier, parce qu'il a joué avec un cadavre de renne. Le renne est mort il y a 100 ans, de l'anthrax, mais l'anthrax, lui, n'est pas mort. Et on sait aussi que la grippe de 1918, qui a fait 100 millions de morts à l'époque, hein, est quelque part dans le pergélisol sibérien. Donc elle pourrait ressortir. Et voilà, pour les horreurs apocalyptiques. Mais malheureusement, il faut être lucide et prendre ça en compte. Voilà pour le climat. Ça va ? J'en dis pas plus, on pourra en discuter davantage tout à l'heure si vous voulez. Je passe à ma deuxième partie, parce que je suis trop long. Les racines anthropologiques du problème de mon point de vue. Mon point de vue, c'est que nous sommes embarqués depuis, disons, 2 siècles et demi, 3 siècles, dans la construction de sociétés en Occident qui repose sur, alors on pourrait dire, 3 grands piliers. Une autre manière de le dire, hein. La modernité occidentale, de mon point de vue, repose sur 3 grands piliers. Un premier pilier qui est la désacralisation du pouvoir politique. Et ça, si vous voulez, pour aller très vite, c'est la grande thèse de Marcel Gauchet sur le christianisme comme religion de sortie de la religion. Dit autrement, je vais très vite, on pourra revenir dessus si vous voulez. Les sociétés qui sont issues du christianisme suivent pour la plupart d'entre elles une trajectoire qui consiste à désacraliser le pouvoir et à distinguer la sphère religieuse de la sphère politique. Opération qui n'est pas claire du tout en islam, par exemple, hein, qui devrait être claire dans le judaïsme, mais Israël montre que ça ne l'est pas complètement, qui n'est pas non plus en Inde, dans l'hindouisme, etc. Il y a une spécificité au christianisme qui est la séparation des deux. Très pour le meilleur et pour le pire. Ça ne s'est pas fait en quelques siècles. Et si vous me répétez tout à l'heure, oui, mais l'Église a bien joué sur le mélange des deux et la confusion des deux pendant des siècles, je vous répondrai oui, bien sûr. Donc l'Église, Rome, a été la première pendant des siècles à jouer sur la confusion entre le religieux et le politique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça fait 2 siècles, en gros, que l'Europe a décidé de séparer définitivement les deux et de désacraliser le pouvoir politique. Pour donner une image, lorsque, le 21 janvier 1793, nous coupons la tête du roi, nous faisons un sacrilège. Mais nous décidons que le pouvoir politique ne sera plus incarné par une monarchie de droit divin. C'est ça qu'on décide en France. Et je suis le premier à penser que c'est une très bonne chose. Donc, ne croyez pas que je dise ça pour essayer de réhabiliter quelques retours à l'ancien régime que ce soit. Mais donc, désacralisation du pouvoir politique. Deuxièmement, quelque chose qui tourne autour du droit et des droits humains, des droits de l'homme et de la femme, des droits humains. Donc ça s'est construit petit à petit. L'origine de ça, si on remonte vraiment, vous avez évidemment le droit romain, mais le droit romain, comme vous le savez, s'est effondré après l'effondrement de l'Empire romain et a été quasiment oublié, jusqu'à ce qu'on retrouve le codex de Justinien au XIe siècle, et qui soit remis au goût du jour par des théologiens du pape Grégoire VII à la faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme ou la révolution grégorienne. J'y reviendrai si vous voulez, mais en gros, autour de 1075, jusqu'à la fin du siècle, ce pape incroyable, Grégoire VII, invente l'État moderne, qui est l'Église, le droit, qui est le droit canon, et la première bureaucratie occidentale, qui est le clergé. À l'époque, en face de lui, il a l'Empire romain germanique qui essaie de copier en fait les institutions de l'Empire romain, tout court, et qui est en déliquescence totale depuis en gros la mort de Charlemagne. Vous vous souvenez de ça, la mort de Charlemagne, ses trois fils se font la guerre, se divisent, l'Empire est découpé en morceaux, et ils n'arrivent plus du tout et plus jamais à retrouver la vraie unité qu'avait celle que connaissait encore Charlemagne, qui ne savait ni lire ni écrire au passage, qui a essayé d'apprendre à lire toute sa vie, qui n'a jamais réussi. Donc c'était un empire qui était quand même très très faible du point de vue des institutions bureaucratiques. En fait, Charlemagne avait une armée, c'était grâce à ça qu'il tenait l'empire. Il n'y avait pas de bureaucratie. Puis en face, il y a le royaume de France, qui est tout petit à l'époque. Donc le roi de France, c'est un baron parmi d'autres, qui dit juste « moi je suis le roi ». À part ça, voilà. Puis le roi d'Angleterre, c'est à peu près la même chose. Donc le pape, en fait, invente pour la première fois des structures d'État qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont celles de l'Église pour lui. Et ensuite, tous les autres royaumes d'Europe vont copier sur les structures de l'Église. Et donc, le droit tel que nous le connaissons en Occident, comme, disons, instance transcendante, qui n'est pas liée au calcul d'intérêt des uns et des autres, mais qui est supposé donner des normes universelles, ça, c'est une invention qui remonte au XIe, XIIe siècle. Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose de théologique derrière le droit. Dire « le droit, c'est ça », et personne n'a le droit de discuter, et tout le monde est soumis au droit. En fait, c'est une position... Si vous ne croyez pas en un Dieu unique, transcendant, c'est quand même compliqué de faire cette opération symbolique. Oui. Après, je ne dis pas qu'on est obligé d'être croyant pour être soumis au droit, mais pour qu'une société ait décidé un jour, en pleine... si vous voyez, l'Europe au XIe siècle, c'est des tribus franques qui se font la guerre, hein. C'est tout. Pour qu'une institution ait décidé de tout régir par le droit, il faut un projet théologico-politique qui vient de Grégoire VII. La Révolution française hérite de ça, parce qu'elle hérite de l'État moderne, qui lui-même vient de ça. État qui, entre-temps, a appris à se désolidariser de l'Église et à accumuler toutes les fonctions que l'Église avait s'était attribuées. Donc, comme vous le savez, l'éducation, la santé... En fait, pendant tout le Moyen-Âge, c'est l'Église qui fait ça. Et puis, petit à petit, et c'est une très bonne chose, l'État prend toutes ses fonctions à sa charge et dépouille l'Église. L'Église, à tort, résiste à ça pendant des siècles, mais finit par abandonner la bataille, heureusement, au XVIIIe siècle. Donc la modernité, c'est la désacralisation du pouvoir, les droits, le droit, et notamment les droits humains. Et vous voyez bien, s'il y a des juristes parmi vous, que les déclarations universelles des droits de l'homme, qu'on a remises dans le préambule de notre Constitution, pour la France, elles ont le statut de ce qu'on a appelé dans l'Église le droit naturel. Donc dans la conception du droit canonique des théologiens du XIe, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, vous avez trois étages. Le droit est une fusée à trois étages. Vous avez le droit positif, c'est-à-dire la loi positive telle qu'elle existe, qui a ses vertus, ses défauts, qui est constamment en train de changer, qu'on est constamment en train de réécrire, d'interpréter, etc. Au-dessus de ça, vous avez le droit naturel, qui est supposé être le droit lié à l'essence de l'humanité et de la création. Et au-dessus de ça, vous avez ce que les théologiens appellent la loi divine, qui est celle que vous lisez ou que vous pensez pouvoir lire dans la Bible, dans les Écritures saintes. Bon. La modernité occidentale s'est débarrassée de la loi divine, et elle a bien fait. Elle a conservé le droit naturel sous la forme des déclarations des droits de l'homme, qui ont un statut bien supérieur à tous les décrets de loi qu'on peut passer aujourd'hui. Puisque chez nous, comme vous le savez, on vérifie si une loi est conforme à la Constitution. Et dans cette opération de vérification, que le Conseil constitutionnel est supposé faire normalement, en toute sagesse et indépendance, on vérifie notamment que c'est conforme au préambule. Et dans ce préambule, vous avez la Déclaration des droits de l'homme. Donc en gros, la Déclaration des droits de l'homme a le statut de droit naturel. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un arrière-fond théologique derrière tout ça, qu'on a transposé et sécularisé. Et c'est très bien. Et puis, troisième grand pilier... C'est là qu'à mon avis, il y a une réforme profonde à faire, qui est, en gros, on s'est convaincu que la propriété privée était ce qui allait donner une chair sociale aux droits humains. Parce que il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les droits humains, tout seuls, ça ne mène pas très loin. Donc aujourd'hui, vous avez des économistes qui ont redécouvert ça, mais d'une certaine manière, ils ont quand même un peu redécouvert l'eau tiède. Donc Amartya Sen, et il a raison de le dire. Il dit, ben oui, mais supposez que je sois un paysan indien, j'ai le droit de vote, mais je ne sais pas lire et j'habite à 40 km du premier bureau de vote et j'ai aucun moyen de transport. Donc j'ai plus d'une journée de marche pour y aller et puis moi je suis un paysan, comment je fais? Je ne peux pas abandonner mon bétail, je ne sais pas quoi. Donc, de facto, je ne vais pas voter. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de vote, mais je n'ai pas la capacité de voter. Donc, ça n'avait pas échappé du tout aux intellectuels du XVIIIe siècle, des Lumières, de l'Aufklärung. Donc, d'une certaine manière, de mon point de vue, quand on relit cet extraordinaire mouvement des Lumières, je crois, on peut dire, il y a eu cette espèce d'utopie qui est la propriété privée, droit sacré et inviolable, dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce qui va donner une chair aux droits de l'homme, qui sont le squelette. Et là, à mon avis, il y a une erreur. Parce qu'on a absolutisé la propriété privée. Et en l'absolutisant, on se rend aujourd'hui incapable d'adresser, comme on dit en mauvais français, c'est un anglicisme, la question écologique. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui quelqu'un est propriétaire d'une réserve de pétrole et que le droit de propriété privée est un droit absolu et inviolable, personne n'a le droit de lui interdire de sortir ce pétrole et de le brûler. Même si ça détruit la planète. Et donc, vous voyez bien, enfin, je crois qu'on est obligé d'accepter d'entrer dans un discernement sur le droit de propriété privée pour dire qu'il doit y avoir des limites au droit de propriété privée. Mais si on fait ça, alors là, on change de paradigme par rapport à ce que nous avons nous-mêmes institué au XVIIIe siècle. Et la question que ça pose, c'est si le droit de propriété privée n'est plus absolu et inviolable, qu'est-ce qu'on peut lui opposer ? Au nom de quoi et au nom de qui ? Et si vous réfléchissez deux minutes, vous voyez que ça va plus loin, d'une certaine manière, que le seul droit de propriété privée. Ça va toucher la souveraineté de l'État. Pourquoi ? Parce que vous avez le même problème, admettons, sur l'Amazonie. Si aujourd'hui Bolsonaro veut détruire l'Amazonie, c'est un privilège de l'État brésilien qui est souverain. Qui peut le lui interdire ? Et au nom de quoi ? Personne. Il n'y a aucune instance internationale qui peut dire à Bolsonaro « Vous commettez un crime contre l'humanité en déforestant l'Amazonie », alors que c'est bien ce qu'il fait. Bon. Et donc vous voyez que si on veut réagir intelligemment à cette énorme crise qui est devant nous, la crise écologique, mais aussi la crise financière, parce que ce que j'ai dit sur la propriété privée vaut pour la crise financière. Je veux dire. Aujourd'hui, si vous dites il faut réguler la finance, vous mettez des frontières et des barrières et des contraintes à la manière dont quelqu'un peut acquérir, accumuler la propriété privée sous forme d'actifs financiers. Et les fondamentalistes des marchés vous diront au nom de quoi ? Si la propriété privée est un droit sacré et inviolable, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'acheter librement un actif financier ? Et même si peut-être le jour je vais provoquer avec ça une crise financière, d'accord, et so what ? Donc vous voyez que ça nous oblige à revisiter le concept de propriété privée et la souveraineté de l'État. Les deux étant très liés dans la tradition occidentale, aussi surprenant que ça puisse paraître. Pourquoi ? Parce que les grands théoriciens sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui, c'est plus du tout Grégoire VII, évidemment, mais c'est John Locke et Hobbes. C'est ça les deux mamelles, si je puis dire, de l'idéologie occidentale. Hobbes, dans la version despotique, le Léviathan, donc État autoritaire fort appuyé sur le secteur privé, mais avec un État autoritaire fort. Donc ça, on pourrait dire d'une certaine manière, je vais très vite, hein, mais en gros, c'est la Russie de Poutine. Vous avez des oligarques, ça c'est le secteur privé, puis vous avez un État autoritaire fort. Ça c'est Hobbes, c'est le Léviathan. Et puis vous avez l'autre version, c'est celle qu'on préfère en général, celle de John Locke, le second traité du gouvernement, qui vous dit, c'est très légitime que je sois propriétaire de privé, parce que tout être humain doit travailler pour vivre, et le fruit de mon travail, c'est ma propriété. C'est ma chose. Vous ne pouvez pas m'en déposséder. C'est illégitime de m'en déposséder. C'est ça le grand argument de Locke. Sauf que, à mon avis, ce que Locke ne voit pas du tout, c'est que lorsque je produis du travail, quel que soit le travail que je produis, en fait, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis vraiment le seul à l'avoir produit, ce travail ? Même si je m'appelle Mozart, je compose une symphonie en deux nuits. En réalité, il a fallu que quelqu'un m'apprenne à lire et à écrire, que quelqu'un m'apprenne à jouer du piano, et que quelqu'un m'apprenne à déchiffrer une partition, m'apprennent l'harmonie, m'apprennent le contrepoint, et comment on compose une symphonie. Mozart n'a pas tout inventé tout seul, même s'il était génial. Donc en fait, à travers Mozart qui compose sa symphonie, il y a des dizaines de personnes qui ont contribué à ce que ce soit possible. Donc sa symphonie, ce n'est pas le résultat simplement de Mozart, c'est le résultat de tout ce qui a construit Mozart. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai travail de réflexion philosophique, hein, sur l'anthropologie du travail et pour nous désintoxiquer de l'imaginaire lockien. Troisième partie, je vais m'arrêter là. Alors, ayant dit tout ça, où est-ce qu'il y a de la lumière ? Je crois qu'il y a de la lumière en partie dans la question des communs. C'est vrai que c'est un sujet qui monte beaucoup, même le président de la République en parle. Ça ne veut pas dire qu'il le pratique, mais il en parle. Donc l'idée des communs, c'est une idée très ancienne. Le rapport au monde comme commun, c'est le rapport le plus ancien que l'humanité n'ait jamais eu. Si vous allez dans n'importe quel village de brousse en Afrique, la terre n'est pas la propriété privée de quiconque. La terre est une propriété commune partagée par le village. Et vous avez en général un chef de terre ou le chef du village. Quelquefois, c'est la personne cumule les deux fonctions. Qui est la personne qui est chargée de dire comment on répartit la terre entre les différents membres du village. Mais lui, il n'est pas propriétaire spécialement. Enfin, voilà, et puis, pour accéder à la forêt, par exemple, aller chercher une plante médicinale dans la forêt, vous devez aller voir le sorcier du village qui vous dit ce que vous êtes autorisé à aller prélever. Parce qu'il sait très bien que si vous prélevez n'importe quoi, ben vous allez peut-être tuer toutes les pousses et l'année prochaine, il n'y aura plus de cette plante dont on a absolument besoin. Donc il y a cette sagesse-là qui veut que la communauté régule l'accès à la ressource. Donc ça, c'est très très ancien. Depuis une vingtaine d'années maintenant, on redécouvre le monde des communs à travers la révolution numérique et Internet. Le commun le plus extraordinaire qui existe, évidemment, c'est Wikipédia. Wikipédia ne relève pas du secteur privé. C'est non-profit. Et il n'y a aucun État qui est derrière une Wikipédia. Et Wikipédia comporte moins d'erreurs aujourd'hui que l'Encyclopédia Britannica. Donc ça marche mieux que la version publique. L'Encyclopédia Britannica, c'est public, ça. Donc il faut reconnaître aussi, et je dis ça, moi, comme universitaire, formé par l'école publique française, le mandarinat français, plus, tout ce que vous voulez, hein, il faut reconnaître que Wikipédia, ça marche mieux. Donc l'intelligence collective mise en commun de manière gratuite, sans intérêt privé, ça marche mieux que et le privé et le public. Et c'est notre expérience à l'AFD. Donc l'exemple le plus classique, c'est l'eau, dont nous allons manquer dans les années qui viennent. La manière la plus efficace de gérer une ressource d'eau potable, c'est de responsabiliser la communauté des usagers, surtout les femmes, de confier le pouvoir aux femmes pour gérer l'eau, et surtout pas de privatiser l'eau, parce que ça prive la ressource, enfin ça prive les pauvres de la ressource, ni de demander à l'État de gérer l'eau, parce que là vous avez une usine à gaz bureaucratique qui n'arrivera pas à gérer l'eau. L'exemple, donc nous, l'AFD pousse ça, donc par exemple, dans les bidonvilles de Kinshasa, on a promu beaucoup de projets qui consistaient à envoyer des éducateurs sociaux pour aider les communautés locales de pauvres dans les bidonvilles à s'organiser entre eux pour gérer l'accès à l'eau. On fait ça dans le Maghreb, ça marche très très bien. Et notre expérience, c'est que ça marche mieux que toutes les autres solutions. Alors l'exemple paradigmatique, c'est justement la PASS dont je parlais tout à l'heure. La PASS a connu le désirou en 2016. Donc il n'y avait plus d'eau au robinet dans le centre-ville de La Paz. Mais dans les bidonvilles autour de La Paz, les pauvres s'étaient organisés autour de leur petit puits en commun, et ils ont continué à avoir de l'eau à travers tout l'été 2016. Et donc ça marche mieux que même la municipalisation de l'eau. Oui. Alors, est-ce que les communs, c'est le communisme? La réponse est non. Le communisme, c'est l'absorption de la sphère sociale dans la sphère publique, dans l'État. Et moi, ce dont je vous parle, ça n'a rien à voir. Ça n'est ni du public ni du privé, c'est une position tierce, c'est un troisième tiers dans l'équation, qui est les communautés locales qui s'organisent. Autre exemple paradigmatique que j'ai visité, que nous le soutenons à l'AFD, dans les forêts de la Guinée, Conakry, du côté de Nzélékoré, là où il y a eu le foyer de l'épidémie Ebola, donc à l'intersection entre le Libéria, Sierra Leone et la Guinée. Les paysans qui vivent dans la forêt sont trop loin de la côte pour aller pêcher, et ils vivent dans la forêt, donc ils ne peuvent pas faire d'élevage de bétail. Et donc ils ont un manque d'apport en protéines qui est chronique. Donc le seul moyen pour eux d'avoir des protéines animales, c'est les poissons, en faisant de la pisciculture. Donc ils s'organisent pour avoir des étangs et faire de la pisciculture. Sauf que la pisciculture, dans un monde où vous n'avez pas d'électricité, c'est compliqué. Parce que le jour où vous sortez le poisson de l'eau, il faut le manger. Vous n'avez pas de réfrigérateur. Et donc vous voyez que le geste, la décision de sortir le poisson de l'eau, est une décision centrale. Si c'est votre seul apport en protéines, vous réfléchissez à deux fois. Et si vous êtes 150 à devoir prendre la décision, ça devient compliqué. Comment vous faites? La réponse, c'est qu'ils se sont organisés en commun. Ils n'ont jamais lu une traîtresse ligne d'Elinor Ostrom, qui est la grande économiste américaine qui a eu le prix Nobel en 2009 pour avoir analysé les communs. Mais sans avoir jamais lu du Elinor Ostrom, ils ont fait du Elinor Ostrom. Donc Elinor Ostrom, elle a identifié sur des tas de cas particuliers 8 règles des institutions qui permettent de gérer efficacement les communs, dont elle a constaté empiriquement que c'était des règles qui marchaient bien dans les faits. Et parmi ces règles, il y en a une à laquelle moi je suis très attentif, qui est on décide à l'avance de comment on va régler nos différends si on n'est pas d'accord sur les autres règles. Autrement dit, vous avez un règlement à 2 étages, vous avez des règles qui vous disent qui a accès à la ressource, par exemple, qui peut aller chercher le poisson, à quelles conditions, etc. Vous avez des méta-règles qui vous disent comment on fait quand on n'est plus d'accord sur l'interprétation des règles au premier niveau. Alors, j'ai demandé à mes braves paysans guinéens, et alors, quand vous n'êtes plus d'accord entre vous, comment vous faites ? Ah, monsieur le chef économiste pose une bonne question. Alors, nous, ce qu'on fait, m'ont-ils dit, c'est, eh bien, on sait à l'avance qu'on va aller voir le vieux d'un village qui est à 20 km, qui est un sage, et on va lui demander de trancher notre différend. Alors, évidemment, c'est la solution version Guinée forestière, mais c'est intelligent. Le vieux n'est pas partie prenante des décisions du village, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il est sage, et tout le monde est d'accord à l'avance que c'est à lui qu'on demandera de trancher le différend. Donc on va trancher le différend. Alors par comparaison, vous pouvez vous demander, dans la zone euro par exemple, est-ce qu'on a pensé à des méta-règles ? Le jour où la Grèce et l'Allemagne ne sont plus d'accord sur le remboursement de la dette publique grecque, l'Angleterre veut quitter l'Union européenne, c'est quoi les méta-règles ? Il n'y en a pas. Donc d'une certaine manière, je dis ça un peu sous le mode de la provocation, mais du point de vue de l'intelligence et de la sagesse institutionnelle, la zone euro, nous sommes des nains par rapport aux paysans de la Guinée forestière, qui ont beaucoup plus de sagesse institutionnelle que nous. Oui. Voilà. Donc pour moi, les communs, c'est ça, en fait. C'est apprendre à se mettre d'accord ensemble sur des gestions intelligentes de ressources partagées qui vont nous manquer dans les années qui viennent et dont nous avons pourtant besoin. Dernier point, et je vais m'arrêter là, pour qu'on puisse discuter. Souvent, on se pose 2 questions à propos des communs, quand on y réfléchit un tout petit peu. La première, c'est quelle est la place de l'État ? Donc vous avez des gens, des militants, qui disent on veut des sociétés organisées uniquement avec des communs. Donc ce n'est pas du tout ma position. Et puis deuxième grande question, quelle est la bonne échelle ? Parce qu'en général, enfin, vous avez vu que tous les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples très locaux. Et vous avez aussi des problèmes mondiaux. Le climat, c'est un problème mondial. La biodiversité, c'est un problème plus local, mais le climat, c'est un problème mondial. Donc en quoi les communs sont une réponse à des problèmes mondiaux ? Sur le premier sujet, ma réponse à moi, c'est les communs, c'est toute ressource n'a pas vocation à devenir un commun. C'est très légitime qu'il y ait une sphère privée marchande, c'est très légitime qu'il y ait une sphère de biens publics gérée par une bureaucratie d'État, mais il faut ouvrir l'espace pour qu'il y ait des ressources qui soient gérées comme communs, à mon avis. Et donc ça suppose qu'on ait un discernement anthropologico-politique sur quelles sont les ressources et les biens dont nous voulons qu'elles soient des biens privés. Quelles sont les ressources dont nous voulons qu'elles soient des biens communs ? Quelles sont les ressources dont nous voulons sur les biens publics ? Et c'est bien une décision politique, parce que je vous donne un exemple. L'éducation en Europe n'a pas eu toujours le même statut. L'éducation, pendant des siècles, a été un bien privé en Europe. Et les jésuites en savent quelque chose, parce que c'est eux qui faisaient marcher la machine. Jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, où l'État a commencé à dire « maintenant, l'éducation, c'est moi ». D'où le duel au 19e et au début du 20e entre le hussard noir de la République en France, qui est l'instituteur, et le curé, parce que chacun des deux prétend avoir le monopole de l'éducation des têtes blondes. En fait, derrière ce débat-là, c'est la question, est-ce que l'éducation est un bien public, c'est l'État, ou est-ce que c'est un bien privé, c'est l'Église ? Donc normalement, depuis un siècle et demi, on a décidé en France que c'était un bien public. Mais vous voyez bien aussi qu'à force de réduire les crédits de l'enseignement public, on en refait petit à petit un bien privé. Jamais l'enseignement privé catholique, par exemple, s'est aussi bien porté depuis 50 ans, aujourd'hui. Bon. Donc ça, c'est des choix de civilisation. Est-ce que l'éducation, c'est un bien privé ou un bien public ? Peut-être qu'en fait, la bonne réponse, c'est que c'est un bien commun, ni public ni privé. Mais dans ce cas-là, il faut se le dire, il faut se donner les moyens institutionnels de l'organiser comme tel. Vous voyez ? Bon. Et donc ça vaut pour tout. Oui. Donc mon point, c'est pas de dire tout doit devenir commun. Mon point, c'est de dire on a besoin d'un vrai discernement démocratique, mais de haut niveau, pour décider ensemble de quelles sont les ressources qu'on veut privatiser, qu'on veut rendre publiques, qu'on veut rendre communes, comme bien commun. Et s'il y a des ressources qu'on veut conserver comme bien commun, comment est-ce qu'on institue les règles et les méta-règles qui permettent de les gérer intelligemment? Donc là, il y a un énorme travail institutionnel qui, pour les économistes, est tout nouveau, tout neuf. Les économistes ne savent pas faire ça. Moi, je suis chef économiste de l'AFD, je casse les pieds de mes équipes pour qu'elles réfléchissent aux institutions qui permettent de gérer les communs. Plus simplement calculer le PIB, l'inflation, le taux de chômage, c'est autre chose. Et pour trouver les bonnes institutions, il faut discuter avec des anthropologues, il faut discuter avec des sociologues, des politologues, oui, avec des gens avec lesquels les économistes ne sont pas forcément habitués à discuter. Et puis le deuxième sujet, c'est la bonne échelle. Donc souvent, on ne parle des communs qu'à l'échelle locale. Or, il y a vraiment des enjeux mondiaux, mais il existe des institutions intelligentes, hybrides, qui sont ni privées ni publiques, au niveau international. Le meilleur exemple, en tout cas mon exemple favori, c'est DNDI, qui est un acronyme pour Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un réseau qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des anciens, par des Français, des anciens médecins de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières, qui ont créé ça, dont le siège est à Genève, qui est un réseau international où il y a à la fois des laboratoires privés, pharmaceutiques, des États, des ONG, qui travaillent ensemble et dont le boulot est de produire des médicaments contre des maladies négligées par le secteur privé classique parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ce médicament. Alors, l'exemple, pour prendre des choses concrètes, c'est l'hépatite C en Égypte. Vous savez peut-être que la population égyptienne est ravagée par l'hépatite C, à un niveau qui est très impressionnant. La thérapie contre l'hépatite C en Europe, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc ça, il y a peu d'Égyptiens qui peuvent se le payer, toute petite élite. Et DNDI arrive à vendre la thérapie contre l'hépatite C pour $400. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, alors pourquoi est-ce que je donne cet exemple? C'est parce que en fait, DNDI essaye de gérer un mal mondial, qui est la mauvaise santé. Et Ebola nous a montré à tous, nous sommes tous concernés par la santé des autres. Parce que si vous vous souvenez un peu du scénario Ebola... En fait, on savait qu'il y avait une crise Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone depuis 2014. Les ONG avaient prévenu tout le monde en disant que ce sera beaucoup plus grave que les flambées d'Ebola habituelles qu'on voit au Zaïre depuis 40 ans. Et puis la communauté internationale n'a rien fait jusqu'au jour où il y a une infirmière britannique qui est morte d'Ebola en Angleterre. Et là, tout le monde s'est rendu compte que en fait, nous pouvions avoir Ebola demain matin, vous et moi. Donc là, en une semaine, la Banque mondiale a mis $1 milliard sur la table pour stopper Ebola, soit un sixième du PIB de la Guinée. Donc là, c'est la réponse occidentale, vous voyez. Dès qu'on a peur, on met des moyens démesurés pour stopper l'affaire. On a à peu près stoppé Ebola, plus ou moins. Mais ce dont on a fait l'expérience, c'est que l'OMS est impuissante par rapport à ça, et que la gestion du type Banque mondiale, qui est la gestion publique, que la Banque mondiale, ce n'est rien qu'une banque qui est gérée par des États, ça coûte très très cher, c'est pas du tout efficace, ça arrive trop tard et ça permettra pas indéfiniment de résoudre tous les problèmes de pandémie monstrueuse qu'on va avoir pour faire ce que je vous ai raconté sur le réchauffement climatique. Donc il faut trouver d'autres solutions. Oui, la solution Banque mondiale Ebola, ça marche une fois, ça marchera deux fois, mais ça va pas marcher très longtemps. Donc il faut trouver autre chose. Et à mon avis, la vraie solution, c'est les innovations du type DNDI. C'est-à-dire des réseaux hybrides, des institutions d'un genre nouveau, ces nouvelles zoologies institutionnelles, qui sont ni purement privées, ni purement publiques, ni purement société civile ONG, mais qui sont une espèce de Lego innovant, qui arrivent à faire des choses que personne ne pouvait faire. Voilà. Alors, un sujet sur lequel il n'y a rien, alors qu'il faut le faire, et c'est très important, et il faut peut-être avoir ce type de créativité institutionnelle, c'est la faune halieutique, les poissons dans nos océans. Donc vous savez que la faune halieutique est en train de disparaître. Donc si vous avez des parents dans la pêche, ils vous diront tous qu'il n'y a plus de poissons dans l'océan Atlantique. Hein. Enfin, il en reste un peu, mais ce qu'il y a sur les étalages parisiens fait illusion. Mais en réalité, vous avez bien repéré que les pêcheurs français et anglais se tapent dessus aujourd'hui. Quand ils ont retrouvé une mine, les bateaux arrivent et ils se tapent dessus pour pouvoir exploiter la mine de poissons. Vous savez que la morue a disparu des côtes canadiennes et que ça fait 30 ans qu'on essaie de la réintroduire, qu'on n'y arrive pas. Et donc, les océanologues français, en tout cas, sont très clairs. Si on continue sur la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui, il n'y a plus de grands pélagiens, donc c'est les poissons que nous mangeons, entre 2040 et 2050 dans nos océans. Donc il restera quelques poissons, c'est les poissons du fond des océans, qui sont tout plats, parce qu'ils ont 3 km d'eau sur la tête, qui sont immangeables, et il restera des méduses, qui ne sont pas mangeables. Alors pourquoi les poissons disparaissent? Ben, pour différentes raisons. La première, c'est la pêche industrielle en eau profonde, qui détruit les chaînes de reproduction des poissons, les chaînes trophiques. C'est le réchauffement de l'eau, la température de l'eau augmente, avec les poissons qui ne supportent pas. Et c'est l'acidification des océans, qui est due à l'absorption de CO2 par les océans. Parce que, et ça c'est la bonne nouvelle, et je vais vraiment m'arrêter là, vous savez que les océans absorbent environ un tiers du CO2 qui est dans l'atmosphère, avec les forêts. Hein, c'est les deux poumons de la planète, les océans et les forêts, qui absorbent le CO2. comme vous savez que nous émettons beaucoup trop de CO2, tout se passe comme si les océans avaient compris que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'ils en fassent un peu plus que d'ordinaire, et ils pompent beaucoup plus de CO2 aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ils en font plus. Pourquoi? Personne ne leur a demandé. Donc, moi, je ne sais pas. Peut-être que les océanologues très pointus savent pourquoi, mais il doit y avoir une réaction chimique. Mais du coup, ils s'acidifient beaucoup plus. D'où la disparition des coraux, hein, la grande barrière de corail en Australie, qui va mourir, à cause de l'acidification. L'acidification tue les poissons. Donc vous avez un triple phénomène, réchauffement, acidification, pêche industrielle. Si on ne fait rien, il n'y a plus de poissons dans nos océans entre 2040 et 2050. Et donc ça, c'est un mal mondial. Et la question, c'est comment on gère ce problème. Vous ne pouvez pas mettre un garde de la faune halieutique tous les 10 km sur l'océan, sur tous les océans, pas possible. Vous ne pouvez pas mettre des hélicoptères partout. Et j'espère bien que Xi Jinping ne viendra jamais le maître du monde pour régler le sort des poissons. Donc il faut inventer autre chose. Il faut inventer un DNDI du poisson. À mon avis, c'est ça, notre avenir. Et ça suppose une révolution anthropologique. Arrêtez de croire que les marchés financiers sont l'alpha et l'oméga, et que la concurrence entre tous, c'est l'essence des relations humaines. Voilà, je vais m'arrêter là.